Bonjour tout le monde. Je vous demanderai de tourner dans la première épître de Jean, au chapitre 3. C'est ce qu'on va étudier ce matin. J'espère que vous avez aimé le temps d'adoration ce matin. Beau cantique, des belles prières. J'ai aimé ici aussi la préparation parce que c'est évidemment au cœur du message que je vais vous donner ce matin. J'ai intitulé le message « Tel père, tel fils ». Je trouvais que c'était beau. Puis ça touche vraiment à ce qu'on va voir dans ce texte-là, dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, au chapitre 3. Vous connaissez notre sport national, c'est le hockey. Dans d'autres pays, c'est pas le hockey, on peut comprendre. C'est un sport qu'on probablement chacun d'entre vous a peut-être pratiqué quand il était jeune. Si ce n'est pas dans la rue, c'est sur la glace avec des équipements. Mais qu'est-ce que vous penseriez de ça, de quelqu'un qui dit qu'il est un joueur de hockey, mais qui n'a jamais joué sur aucune glace? Est-ce qu'il peut se déclarer un joueur sans jouer? Il peut certainement écouter la télévision, écouter les matchs à la télévision, s'intéresser au hockey, aux statistiques, être un fan de hockey, mais ça ne fait pas de lui un joueur de hockey. La preuve qu'il est un joueur de hockey, c'est qu'on va le voir pratiquer son sport dans un aréna, sur une glace, avec une équipe de hockey. Vous connaissez certainement l'adage qui dit « grand parleur ». Vous connaissez? Mais on pourrait peut-être ajouter ou changer un peu cet adage-là. Grand faiseur? Non. Petit parleur. Vous n'avez pas compris l'idée. Mais on ne l'emploie pas souvent, celle-là, peut-être parce qu'il y a peu de monde qui le pratique. Un grand faiseur, un petit parleur. Les paroles, ça sollicite nos oreilles. Ça nous plaît des fois. Mais l'action, ça sollicite nos yeux et ça nous dit qu'est-ce qui est vrai. C'est facile de dire une parole quand on est un joueur de hockey, mais c'est mieux le voir. Comme disait Yvon Deschamps, on ne va pas le savoir, on veut le voir. Alors, dans le texte de ce matin, on va le voir. On va voir qu'est-ce que c'est. Je vais lire le chapitre 3, les versets 1 à 10. Le message va être divisé en trois parties. On va regarder, non pas les joueurs de hockey, mais les vrais enfants de Dieu, les vrais. Pas ceux qui se prétendent des enfants de Dieu, les vrais. On va regarder la nature des enfants de Dieu, l'amour des enfants de Dieu et la confiance qu'ont les enfants de Dieu. Voyez quel amour nous a témoigné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés du monde. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. On parlait de radicalisme ce matin. C'est assez radical comme texte, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'exemple que j'ai donné dans ce texte, dans les Écritures, il y a un lien direct entre voir et connaître, vraiment. D'ailleurs, dans un tribunal, une personne qui est digne de confiance, c'est quelqu'un qui a vu. On appelle ça les témoins oculaires. C'est très important. Et même quand on a fait le Nouveau Testament, on voulait des témoins oculaires. On ne voulait pas des candidats. On voulait les gens qui avaient vu. Si une personne dit qu'elle connaît la vérité, alors nous pourrons nous attendre d'aller au-delà de ses paroles pour le voir dans son action. Une parole dite comme vraie et qui s'avère non visible par la suite est non seulement une vérité douteuse, mais elle cache souvent une erreur, des fois à l'insu de la personne, un mensonge ou une hérésie. On reconnaît toujours la nature d'un arbre par les fruits qu'il porte, que nous pouvons observer de nos yeux. Le fruit est la preuve visible de la nature de l'arbre. C'est simple. Donc, on peut savoir, on peut connaître. L'Écriture nous enseigne un principe très important et vital pour notre marche avec Dieu, qu'il voulait communiquer à cette église-là qui était en danger parce qu'il y avait des faux prophètes, des docteurs, des gens qui colportaient des hérésies qui auraient pu ébranler et qui ébranlaient déjà les gens. Je vais paraphraser ce principe-là, mais il est tellement important. Il n'y a pas d'être sans faire. Il n'y a pas d'être sans le faire. Avec. Parce que c'est très facile de dire des choses, de prétendre, mais si le faire n'est pas là, comme le joueur de hockey, il n'y a juste pas d'être. Et le plus important, c'est que Dieu lui-même s'applique ça à lui, ce principe-là. Ce n'est pas un Dieu qui dit des choses sans qu'il y ait une pratique. Il est comme ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Quelle est la nature de cet amour-là? Quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas mesurer. Non, voyez. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, regardez-le. Ce n'est pas juste une parole, on le voit. Est-ce que c'était un sentiment ou une pensée? Peut-être au début. Mais ça s'est manifesté. Le Père a vraiment envoyé son Fils dans le monde. On l'a vu. Dans un corps de chair, on l'a vu. Il a réellement été crucifié sur une croix pour nos péchés. On l'a vu. Ça nous donne la mesure de l'amour de Dieu. Il faut que ça soit visible. Et ce principe-là, ça s'applique aux enfants de Dieu. Pas juste à Dieu, ça s'applique aux enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, ça va paraître où? Dans le faire, comme notre Père. Si quelqu'un pense qu'on ne peut pas reconnaître un enfant de Dieu d'un enfant du diable, il faudrait qu'il réfléchisse à ce principe-là. Des fois, c'est vrai que ça prend du temps puis beaucoup de discernement avant de discerner une chose pareille. Que l'Esprit de Dieu habite dans l'âme d'une personne. Mais selon l'Écriture, quelquefois, c'est nécessaire d'avoir ce discernement-là. Il ne s'agit pas de séparer régulièrement le blé de l'ivraie. Chrétien, pas chrétien, chrétien, pas chrétien, 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 pas chrétien, pas chrétien. Non, c'est pas ça. Ça ne sert pas à grand-chose à faire ça. On s'enorgueillit. Souvent même, on devient orgueilleux à faire ça. Mais ça prend un principe directeur. Lorsque la foi est en danger, il y a des faux docteurs, des faux prophètes et des antéchrists même, comme disait le texte. Dans le cas contraire, la foi est en péril, le péché est juste sur le bord de se manifester, ça prend un principe, et ça, c'est un principe. Jean, on voit dans le texte, il applique ce principe-là. Je demeure en lui, c'est ce que, hein, on dit, je demeure en lui. Ça se voit. Je ne pêche pas. Donc, je demeure en lui. Et si je pêche, ben je suis quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas dire que je suis en Dieu alors qu'il n'y a pas les œuvres qui vont avec. En passant, je vais faire des bémols sur la chose que je dis. Je suis juste. Il faut que je pratique la justice. C'est comme le sport. Si je dis que je suis juste, il faut que je pratique la justice. Pour pas juste le dire. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Parenthèse. Là, ça donne l'impression que si tu as fait un péché, tu es fait. Mais le texte ne peut pas vouloir dire ça, pour deux raisons. Premièrement, le texte dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, dans 1 Jean 2, c'est un menteur. Donc, il faut contrebalancer ça. C'est un menteur, celui qui dit ça. Et en plus, le texte dit que ce que nous sommes vraiment n'a pas encore été manifesté dans toute sa gloire. Donc, il va y avoir des ratés. Ce que dit Jean, c'est que lorsqu'on est un enfant de Dieu, ça, c'est notre style de vie en général qui va s'orienter vers ça. Oui, on va tomber. On a un avocat, on va se relever. Dieu va faire un travail. Mais ça va paraître qu'on est un chrétien. Ça va paraître. Vous savez, c'est très facile de s'abuser soi-même. Le cerveau humain a cette capacité de virer le vrai en faux et le faux en vrai. Ça s'appelle la séduction. C'est très présent à l'intérieur du cœur de l'homme. Des fois, tu entends des choses incroyables par des gens intelligents et tu te demandes comment ils ont fait pour en arriver là. Et ils croient ça. Dur comme fer, la séduction. Si nous disons que Dieu est notre Père, alors dans notre vie, ça va se manifester. Parce que tel Père, tel Fils. Tel Père, tel Fils, telle fille. Je ne veux pas oublier la moitié de l'humanité. Maintenant, on va regarder l'amour des enfants de Dieu. La seconde partie du verset 10 dit « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Cette petite partie-là introduit les prochains versets qu'on va étudier ensemble, 11 à 18. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, du diable, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Deux raisons. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que les œuvres de son frère étaient justes. Il y avait deux raisons pour le tuer, ce qui n'étaient pas des bonnes raisons. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce que nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu va-t-il demeurer en lui? Petits enfants, même principe, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Ça se voit des actions, des paroles. Ça s'entend. C'est la suite, même principe encore, mais dans l'amour. On trouve ça radical quand on entend un apôtre comme Jean séparer le monde en deux comme ça. Les enfants du diable, et Jésus a fait pareil devant des chefs religieux. Il ose leur dire que leur père est le diable. Imaginez la colère qu'il devait avoir là. Ça devait être incroyable. Incroyable. Là, maintenant, il va faire deux catégories avec les fils d'Adam. La voix de Caïn et la voix d'Abel, qui a été agréable à Dieu. Caïn est l'exemple d'une personne habitée par la haine qui l'a conduit au meurtre. Ceux qui suivent Caïn détestent Dieu et manifestent cette haine en tuant ceux qui sont autour d'eux. Ce sont ceux qui suivent la voix de Caïn sous l'influence du malin qui ont haï le Christ et qui l'ont mis à mort. L'apôtre Jean affirme que ceux qui suivent le Christ vont subir le même traitement que lui, car ils seront perçus par le monde comme des ennemis à cause de leur filiation avec Dieu. C'est nous, ça. Puisqu'il a connu l'amour, un enfant de Dieu ne peut pas suivre la voie de Caïn qui a tué son frère à cause de sa haine. Parenthèse. Moi, ça fait 1982. Bravo. C'est l'âge du Christ. Ah oui, c'est incroyable. Ça fait 33 ans que je suis au Seigneur. Et au tout début, quand je suis devenu chrétien, le monde était en deux. Vraiment en deux. Je le voyais par l'Esprit de Dieu et c'était confirmé par la chair à tous les dimanches. Que le monde était divisé en deux. Et c'est vrai. Je n'y pas ça, c'est vrai. Mais, tranquillement, à la longue, on sépare beaucoup en deux. Et je me suis aperçu, pour l'avoir vu et l'avoir vécu moi-même, que cette division, le monde et nous, eux et nous, il se cachait un mépris des gens. Pas une haine, ça serait trop fort, mais un orgueil qui regardait ces gens-là comme de haut. Le monde. Les païens, j'entendais ça avant, hein? Les païens, tu sais, mais pas païens, mais païens, tu sais. C'était tout l'amour en arrière de ça. Et c'est un danger, les Écritures n'enseignent pas ça. Le Christ n'a jamais parlé comme ça, quand même. De sorte que, finalement, l'amour qu'on devait avoir pour ces gens-là, qui étaient souvent les gens de notre famille, était caché parce que on vivait ensemble, puis il y avait nous et eux. Et c'est probablement, c'est certainement ça qui a fait composer la chanson de Luc de la Rochelière, « Sauver mon âme ». Ils restent ensemble parce que rien ne leur ressemble. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est appelé à ça? Est-ce que ça veut dire de s'aimer entre nous sans jamais être capable d'aimer le monde? Je pense qu'il faut se garder de rejeter le monde, ou pire, de le mépriser ou le haïr. Parce que le principe est simple. Les Écritures sont claires là-dessus. C'est pas nous qui devons haïr le monde. C'est le monde qui va nous haïr. C'est très différent. Maintenant, si ils te haïssent parce que tu te comportes comme un imbécile, ça, c'est une autre affaire. Mais si tu suis le Seigneur, qui lui-même s'est fait rejeter, c'est notre voie. Mais nous, nulle part dans l'Écriture, ça dit qu'on doit manquer de considération et d'amour pour le monde. La haine qu'on a sur nous ne vient pas de là. Elle ne peut pas venir de nous. C'est intéressant l'exemple de Caïn, quand tu vois, il fait son offrande. Dieu, il n'accepte pas son offrande. Pas plus de détails qu'il faut sur ces offrandes-là. Puis son frère, son offrande est acceptée. La haine conduit. Il ne prend vraiment pas. Puis c'est intéressant parce que quand on lit le texte, là, Dieu lui demande « Relève ta tête ». Donc, imaginez ça, là, c'est comme un enfant. Là. Caïn, il est là, là, puis il regarde à terre. Il semble avec les... Tu sais, comme ça, voilà qu'on va te... Il regarde à terre. Ça, là, tu laisses aller ça, là, ça génère le meurtre, une attitude comme ça. Mais c'est pas la faute de Dieu, c'était même pas la faute d'Abel, c'est lui qui a décidé ça, de briser la communication avec Dieu, puis finalement, tuer son frère, briser la communication avec son frère. C'était sa part à lui. Le fait qu'on aime nos frères et sœurs, c'est pas une œuvre extraordinaire. C'est nos frères. Ça ne nous demande pas une affaire incroyable d'aimer son frère et sa sœur. C'est Dieu qui produit ça en nous. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on est indifférent avec un frère ou une sœur? Ah, là, il y a beaucoup de travail à faire et ça arrive. Ça arrive. Mais c'est pas insurmontable parce que c'est ta sœur, c'est ton frère. Dieu va produire quelque chose dans ta vie. Et le texte va même plus loin. Si tu as des pensées, un siège dans ta vie pour la haine, devant Dieu, tu es un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier peut avoir en lui la vie éternelle. Tu ne trouves pas ça radical, ça? Alors, quand on suit Dieu, c'est quelque chose. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Je vais terminer avec les derniers versets. La confiance des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est supposé avoir confiance. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Dieu n'approuve pas la dureté du cœur lorsqu'il voit ses enfants s'affronter. Il n'accepte pas ça. Si vous sentez un différent qui prend de l'importance avec un frère ou une sœur, vous devriez en faire un examen. Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu d'aller dans la haine. La culpabilité, un grand thème parmi les croyants. Le texte semble dire que Dieu reprend le fait que tu vois ton frère dans le besoin puis tu fermes ton cœur. Puis tu te sens condamné. Mais on peut aller plus loin dans cette condamnation-là. La condamnation peut venir du fait que tu luttes avec un péché puis tu sembles pas avoir de victoire. Il y a même des gens qui, non seulement ils portent une culpabilité, en plus, ils portent celle des autres sur eux. Hey, ça, c'est une vie misérable. Déjà, ça me prend tout mon change avec ma propre conscience. S'il faut que je prenne la conscience des autres en plus sur moi, je vais être misérable. Pourtant, Dieu dit, vous devriez savoir que Dieu est plus grand que votre cœur. peut-être quelques questions si vous vous sentez pris par la culpabilité. Est-ce que ma conscience me condamne à cause d'un manque d'amour envers un proche, un frère ou une sœur? Est-ce que ma conscience me condamne pour un mal que j'ai réellement fait? Et est-ce que ma conscience me condamne pour un mal que j'ai jamais fait? Parce que je vais être troublé. Les personnes qui sont perfectionnistes, c'est des gens qui en prennent beaucoup sur eux. Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous sentez coupable, l'apôtre Jean dit que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît toutes choses. Il n'est pas normal pour un chrétien de se sentir toujours coupable. Ce n'est pas normal, ça. Que ce soit lui qui a fait le péché ou qui porte ceux des autres. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime toujours, même quand il est beau. La beauté du christianisme, hein? C'est pas un Dieu qui nous tape sa tête avec un petit marteau. T'en as pas assez fait. Et pas comme ça. Regarde là. Encore tout croche ton affaire. Quand est-ce que tu vas être saint, juste? Et que je suis donc fatigué de te voir aller. Une chance que Dieu n'est pas de même. Ça dit même que ça nous suit même dans la vie de prière. Vous devriez vous attendre à ce que Dieu réponde à vos prières. Vous êtes en sécurité avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre à chaque demande que vous faites, mais vous êtes en sécurité avec Dieu. Alors Dieu fait son œuvre dans notre vie. Puis Dieu, il va s'arranger pour qu'on lui ressemble. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Que le Seigneur vous bénisse.